Chers auditeurs, bonsoir. Depuis l'atelier du Bacro près d'Aubenas, en Ardèche, je suis en compagnie de Marie-Lo Pinto et de Jasmin Liman. Voici venue l'heure des mots d'azur ou la poésie en direct, une émission consacrée à la poésie contemporaine, animée par Béatrice Maché. Bonsoir Marie-Lo Pinto et bonsoir Jasmin. Merci de m'accueillir dans votre lieu de vie qui est aussi un lieu de résidence. D'écrivains, de poètes, un lieu où sont venus Fabien Drouet, Mélanie Sessieck-Duprat, Esther Salmona, Paul de Brancion, Sarah Kerina, Frédéric Guitaliviani et d'autres encore, et dont certains vous avez déjà entendu la voix sur les ondes de Radio Agora. C'est un lieu également où chaque premier samedi du mois se déroule un atelier d'écriture, entre 14h et 16h exactement. Un atelier d'écriture intitulé « Zone d'écriture libre ». Un lieu qui accueille un atelier de calligraphie pour enfants, animé donc par Jasmin. Un lieu où se déroule chaque été un festival de littérature et musique. Un lieu qui est aussi le siège de l'association 30 Oiseaux, qui produit la revue VIF, V-I-F. En pleine nature, un lieu grouillant de vie et d'activité autour de la poésie au sens large. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, voici des informations relatives aux activités de l'association Les Mots d'Azur. Notre prochain rendez-vous de lecture poétique aura lieu le 21 mars 2025 à 19h au château de Moinsartou et l'invité en sera Pascal Giovanetti, qui organise des soirées slam et qui est un slameur. Revenons à nos deux invités, Marie-Lo Pinto et Jasmin Liman. Je pense que ce n'est un secret pour personne, vous êtes écrivains tous les deux et vous formez un couple dans la vraie vie. Marie, vous êtes née en 1973, vous avez grandi dans une cité de la banlieue de Nîmes, vous avez vécu dans les quartiers nord de Marseille. Et après être passé par la case danse, en participant par exemple au projet de la compagnie X Sud à Nîmes, auprès des chorégraphes Nicole Canonge et Laurent Pichot, vous êtes passé par la case voyage, et vous écrivez et vous exercez à présent la profession de psychologue clinicienne. Jasmin, vous êtes née au Maroc, et vous en êtes partie, à l'âge de 5 ans, m'avez-vous dit ? Mais ce pays reste dans votre cœur. Si l'on en croit l'entretien mené par votre éditrice, vous écrivez pour savoir comment la vie, qui est une aventure, comment cette vie continue en des ailleurs, loin de Casablanca. Vous voilà donc tous les deux installés ici en Ardèche, dans ce charmant hameau, avec le projet d'accueillir des résidences, d'organiser un festival. Est-ce quelque chose dont vous aviez envie depuis longtemps, ou bien c'est le lieu qui a imposé cette initiative ?
Pour moi, c'est le lieu, parce que c'est un lieu très particulier, très singulier. Ici, à Lantillère, ce hameau à quelques kilomètres du village de Lantillère. Et c'est une rencontre avec ce lieu, qui est une ancienne ferme ardéchoise, qui a été réhabilitée dans les années 70 par Manuel Roche, qui était une photographe, psychologue, elle aussi, écrivaine, et son compagnon André Ravero, qui est un architecte. Donc c'est un lieu qui est très riche de par sa disposition et aussi ses aménagements. C'est un lieu où on a pu retrouver, je pense, avec Jasmin, ce qui nous intéresse par rapport, oui, au Maroc, aux influences marocaines, algériennes, puisque André Ravero était un architecte qui a beaucoup travaillé en Algérie, notamment à Gardaïa, dans la vallée du Mzab. Et ici, on retrouve cet aspect de cette architecture ibalite.
Jasmin, quelque chose à ajouter ?
Je pense que c'est un lieu effectivement qui porte quelque chose d'ouverture sur l'autre et sur le monde, en particulier avec le monde méditerranéen et arabe. La question aussi de notre association qui s'appelle 30 Oiseaux et porte les projets dont vous avez parlé. Et c'était pour nous quelque chose d'important et que ce lieu permette ça. Et on avait, oui, des vastes idées comme ça, mais le lieu a permis de venir concrétiser ça en trouvant un espace où on a pu poser ces 30 oiseaux. On faisait déjà des choses dans les quartiers nord à Marseille, mais là, ça a vraiment permis cette possibilité, avec aussi le soutien de la DRAC, qui nous a permis de créer cette résidence, et le soutien du département de l'Ardèche, qui sont très vite venus nous soutenir, puisqu'on proposait ce lieu qui était déjà identifié, puisqu'il y avait une association qui était là, à la DAR, les amis d'André Ravreau. Et vu que ce lieu était ouvert, et ben c'était important pour nous de garder ce lieu ouvert, et qui a deux maisons, la maison où on vit et l'endroit où on a créé... où on a aménagé l'atelier d'André, qu'on appelle d'ailleurs toujours l'atelier du Bacro, et qui permet d'accueillir ces auteurs en résidence. C'est ce qui permet de faire un festival qui est, oui, basé sur la poésie, mais la poésie en général, et sur la question de l'écriture contemporaine, mais dans divers médias, bah oui, il y a la question de la danse, la question de la musique, la question du théâtre, la question de brassage, de métissage, ouais, d'hybridité.
Comment sélectionnez-vous les auteurs ou les autrices qui se portent candidats à faire une résidence ici ? Est-ce que c'est leur projet ? Est-ce que c'est leur œuvre en général qui vous interpelle ? Et également, une fois que les auteurs sont plus ou moins sélectionnés, à quoi s'engagent-ils ?
Alors je vais répondre, et puis Marie viendra dire tout à fait autre chose que moi, et tant mieux. Il n'y a pas de sélection, en fait. Il y a des auteurs qu'on a fait venir parce qu'on connaissait leur travail, mais il y a pas mal d'auteurs dont on ne connaissait pas le travail. On a cherché après, mais c'est vraiment une question de rencontre. Une rencontre avec une maison d'édition, une rencontre avec un texte, ou une rencontre avec une personne. Et sur la question des différents esthétiques qui ont pu travailler ici, enfin différentes personnes, ben c'est aussi un choix, que ça soit vraiment varié. Après, il y a la contrainte aussi, on est quand même dans un endroit isolé, et comment on peut se frotter à cet ailleurs qui n'est pas si loin non plus de tout, hein, mais qui est quand même un ailleurs. Je dirais plus affinité que sélection.
Marie, quelque chose à ajouter ?
C'est vrai que parfois on a des demandes d'auteurs sur comment candidater, est-ce qu'il y a un dossier, est-ce qu'il y a... Ben non, il n'y a pas de date. Bon, c'est pas non plus désorganisé complètement. Hein. Il y a un cahier des charges de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Je crois que le mot, c'est notre désir d'accueillir, d'être ensemble aussi pendant ce mois de résidence, parce que c'est un mois, oui, ça se fait par le biais des rencontres, de la rencontre.
À la croisée de deux mouvements de désir, quoi.
Totalement. Quand on dit qu'il n'y a pas de sélection, il y en a forcément une, puisqu'on est validé aussi par la DRAC, donc c'est forcément un auteur professionnel, à savoir qu'il ne fait pas autre chose qu'écrire, pas d'autres métiers ailleurs. Il ne peut pas être, par exemple, professeur, même s'il écrit et qu'il est professionnel à côté, hein, mais voilà. Ensuite, toutes ces rencontres, eh ben, c'est par le biais de réseaux, sans que ça soit du pistonnage, mais c'est parce que ben, un tel connaît une autre personne qu'on va pouvoir rencontrer une autre personne, et c'est ce qui va faire une volonté de rencontre. Et ben oui, on va essayer de se risquer à cette personne. Cette personne va venir se risquer jusqu'à chez nous, et c'est ça qui nous intéresse. Et ensuite, il y a ce cahier des charges de la DRAC qui vient, puisqu'on soumet quand même les auteurs qu'on présélectionne, qui vient nous valider, parce que si l'auteur a fait trop de résidences, ou enfin voilà, il y a toutes ces choses-là, et ça, on le fait professionnellement, puisque les auteurs sont rémunérés, on y tient, enfin voilà, c'est important. Et puis parce qu'il y a des actions de médiation aussi, enfin, vous voyez, il y a une question d'engagement, et ça, c'est ce cahier des charges, voilà, il y a quand même ces critères-là, on demande une note d'intention, et ça se co-construit assez rapidement, mais en même temps ça nous prend aussi pas mal de temps, puisqu'on a trois résidences effectivement par an, qu'il y a eu plus de 12 auteurs qui sont venus en résidence, enfin 12 dans le cadre de la DRAC, puis d'autres personnes qui sont venues autrement dans le cadre du festival ou dans le cadre de rencontres plus ou moins informelles. Voilà.
Nous allons maintenant nous pencher sur vos livres et vos écrits. J'aimerais, Marie, que vous nous lisiez ce « traere », qui veut dire « tirer » ou encore « traîner » en latin. Un texte publié sur le site de poésie animé Pierre Le Pilouer. Alors, c'est un site très riche en textes, en articles, en chroniques diverses, qui se nomme « Citodis ». Chers auditeurs, je recommande, allez visiter si vous en avez la curiosité, et vous ne serez pas déçus. Parenthèse fermée, nous revenons donc à « traere ». Marie, je vous laisse lire.
Tu tu fais comme si je n'existais pas. Sur le trottoir, tu passes, tu jettes, les yeux au loin, tu jettes, tes yeux ne t'appartiennent plus, tes yeux. Sur le bitume roule comme des billes de m'avoir vu sur le trottoir en face. J'ai de pierre tes yeux agates dans les trous du trottoir équinoxe fissuré. Ça fait des ondes de choc, ça fait des vagues, des lames de fond, le vague de tes yeux. Les orbites nues dedans, tu préfères parce que tu ne veux pas, au loin, à part toi, à part moi, en face personne, d'autres ne passent. Seulement toi, tu fais comme si je n'existais pas. Pas un œil pour moi. Par terre tes yeux, alors moi cuite, baisse les yeux, mes pieds perdus, alors moi rouge, toute rouge, sur le trottoir en face tes yeux à ramasser, reste sur place, je rouge de ça, jonte à part moi, en face, car au frapper tes yeux roulés dans les brèches, n'appartiennent plus, sur le bitume, dans les trous fissures, jonte pour toi, toi, toi tu vas de l'avant, droit devant, au dehors, toi illimité, foule au pas, tu laisses tes yeux, tes pauvres yeux sur le trottoir. Moi, toute rouge de voir ça, derrière toi. Yeux qui traînent et toi, séquent, droit, devant au dehors de l'histoire, cours sans voir, midrias ailleurs. Derrière toi, moi, point rouge, à côté, jeté, tu jettes tes yeux au loin, tu traces, tu tires, tu fais des lignes, des segments, des sections, des creusets, des droites, de l'avant, je sens s'inverse. Je rouge en sens inverse, cours refuse, cours trace, droit, tu fais comme si je n'existais pas, et moi, trace rouge de toi, point rouge à côté, infiniment petit, en plan, sans longueur ni épaisseur, à la règle intercède, tire un trait, à la ligne, point final.
Merci beaucoup, Marie Lupinto. Alors, c'est un texte qui trahit bien. Alors je dis trahi parce que trahirait, ou en tout cas qui exprime bien, qui rend bien l'émotion, le choc, l'indignation ressentie. Et on voit bien ces deux personnes qui se croisent et l'une ignore, rejette l'autre volontairement. Pensez-vous que ce soit un comportement de plus en plus fréquent dans notre monde? Et y a-t-il derrière ce texte la métaphore d'un symptôme dont on souffre dans notre société?
Certainement, mais il n'a pas été écrit avec cette idée-là, en tout cas. Il a vraiment été écrit comme un dessin de trajectoire, de trajectoire et notamment de lignes rouges, hein, avec la question de la honte, et vraiment comme... des lignes qui ne se rencontrent pas, qui ne peuvent pas se rencontrer. Ensuite, oui, effectivement, qui parle de peut-être de notre époque, je sais pas, mais c'était aussi la rencontre impossible quand la parole n'est plus possible et même le regard n'est plus possible, le regard sur le visage.
Donc, ça serait aussi en relation avec l'expérience que vous pouvez avoir avec des patients qui se trouvent dans des instituts psychiatriques ou...
Ça pourrait, oui, c'est un lien qu'on peut faire quand on ne voit même plus l'autre dans sa singularité, dans ce visage aussi qu'il laisse voir et qu'il donne à rencontrer. Et ça partait d'une expérience personnelle. Quand l'amitié n'est plus possible, qu'il n'y a plus la possibilité de se regarder, de se faire un signe, et alors de se parler, n'en parlons pas.
Je vais laisser maintenant Jasmin Liman lire un texte dont il est l'auteur, bien sûr, publié lui aussi sur le site Citaudi, un texte intitulé « Alali l'hiver ».
Du givre et des grives, des petites traces de pas dans la prairie parsemée de gelée blanche, des galets à couvert, des pierres cachées avant l'argile et la boue, avant la glèbe et le geste, avant l'aube et lumière, des grives et du givre, des lueurs pleines de plumes d'arbres et d'oiseaux, pleines de répétitions dans le silence à l'orée des forêts, et l'hiver que l'on ne sait pas lire, les nuits trop longues, des grives et du givre, de la buée dans la bouche, de la brume, un baiser, oui, une bise légère, ou l'enfance qui tombe, qui chute, comme des feuilles aux nervures mortes, de la sève dans la bouche encore, un semblant de sève, de la sève à la place de la salive, de la sève sur les lèvres, et un jour qui s'élève, maintenant, sans enfance. Sans poème, sans petit poussé, sans recoin ni trésor de rien, une répétition du jour froide, une italienne, une représentation ratée, un poème ordinaire. Du givre et des grives, des monticules couverts de genêts, des petites phrases palimpsestes que l'on redit en boucle, des boucles de cheveux, des chiens et des chevaux, des cordes et des chaînes, le ciel, une vieille place bleue, et la sève encore, la brume, la buée, le reflet de la bougie derrière la vitre, le silence comme une liaison, une ligne de fuite, le silence et le regard de l'autre côté de la fenêtre. Du givre et des grives, des corbeaux noirs, des branches de nuées, la gelée blanche avant la boue et le silence, comme une lésion dans la bouche, une parole à bas bruit, un geste dans la glèbe, le silence avant la répétition du givre et des grives, un matin avant l'hiver, que l'on ne sait pas lire, que l'on ne lira pas, non que l'on ne veut pas lire, que l'on ne lira plus, ni signe, ni trace, ni pas, ni force, et forêt, ni brin de bruyère, à la lie du matin, et des marches dans la prairie, à la lie des fleurs séchées, à la lie des rivières, à la lie des flaques de boue, écorce et de lichen, des rives et ricochets, à la lie des liés, à la lie de l'oubli, à la lie de silex et de sève, à la lie de l'enfance, des trésors de rien, des grives et du givre de la buée dans la bouche, un baiser, une bise légère, peut-être à peine un souvenir sur un front. À la lie de la neige maintenant, et l'enfance qui tombe, qui chute comme un agrégat de cristaux, de glace, des étoiles à 12 branches, ou l'enfance tombée dans la neige maintenant, et de l'autre côté de la vitre, dans les champs, l'enfance tombée dans la neige maintenant, dans les camps, dans le ciel, un trop vieil endroit bleu que l'on ne regarde plus. Des occupations, des rituels, des habitudes, des obligations, des gestes qui nous maintiennent debout, tout juste vivants, pas le temps de regarder, non. À la lie des regards et des rêves, de la sève à la place du sang, un semblant de sève dans l'arbre de l'homme, des grives et du givre, des buissons oubliés, des recoins perdus, des sentiers effacés, des traces et des traces, des ratures, des rayures, des recommences encore une fois, des efforts, des gesticulations et des chutes, et le silence encore, le silence entre les mots, le silence comme une lésion dans la bouche à bas bruit, dans la brume de la buée, un balbutiement de paroles et l'hiver que l'on ne sait pas lire, l'hiver encore et la neige maintenant, un matin après l'enfance, un matin ordinaire, une date ordonnée, un jour après l'autre, un silence dans le jour qu'on ne peut pas dire, qu'on ne veut pas parler, une absence de sens, des grives, du givre, des pensées maintenant qui nous pensent, des pensées, des silences à bas bruit dans la bouche, sur les lèvres des rêves, des forêts, des fauves, des pensées, des écorces et des brins de bruyère, des galets, du lichen et des pierres, des oiseaux, des arbres, du lierre, à la lie du matin, à la lie de l'automne, à la lie et hiver qui regarde, qui parle, qui susurre ensemble de l'autre côté de la fenêtre, derrière la vitre, à la lie de l'hiver, maintenant vivant dans l'arbre de l'homme, dans la sève sur les lèvres de l'homme, dans les dires et les rêves, dans l'oubli, la chasse de l'homme et la trace, à la lie de l'hiver que l'on ne sait pas lire, qu'on ne veut pas, qu'on ne lira plus, l'hiver qui pense à notre place, l'hiver maintenant et la neige, le souvenir de la neige, comme l'enfance tombée, comme la chute, comme une représentation ordinaire, une photographie commune, un cliché usuel, des synonymes et des traces, des feuilles aux nervures mortes, des étoiles à 12 branches, un agrégat de cristaux, de glace, de flocons et des forêts d'hiver à ciel ouvert, comme un livre, un nom, une histoire d'homme.
Waouh, merci. Voilà un texte qui joue avec les assonances, on l'a entendu, dans lequel il n'y a aucune ponctuation. Et donc c'est comme un galop ininterrompu qui nous met un petit peu hors d'haleine, comme serait hors d'haleine un animal chassé. Alali est un nom commun masculin qui désigne le cri de victoire du chasseur ou le son du cor lors d'une chasse à court pour annoncer la mort du gibier et par extension signifie l'annonce de la fin de quelque chose, une défaite. Alors Jasmin, peut-on dire que ce texte veut tirer une sonnette d'alarme, rendre les lecteurs conscients des problèmes qu'engendre le réchauffement climatique, parce que là, on a quand même certains éléments qui pourraient y faire penser, ou bien encore, regarder en face la mort qui travaille en nous pendant que l'on vit.
Alors oui, le réchauffement climatique, pourquoi pas? C'est plus une question de chasse qui peut presque être finalement aussi joyeuse, de chasse de l'homme ou de chasse de l'humanité, en sachant quelle humanité on veut. Oui, il y a la mort de l'enfance, mais il y a aussi autre chose. Et moi, bizarrement, quand je le relis,
Le rythme est fatigant, c'est difficile à lire. Pour moi, il y a des sonorités qui sont aussi relativement joyeuses, qui n'est pas une chasse à cours, même si ça joue là-dessus. C'est plutôt un retour de l'hiver et qu'on peut des fois glacer certaines choses et que c'est pas mal quand ça se glace. Ouais.
Alors, les deux textes, je ne les ai pas choisis au hasard parce qu'il m'a semblé quand même qu'il y avait une sorte de ressemblance entre ces deux textes. D'abord, la rythmique, le manque de ponctuation, qui n'est pas un manque de défaut, hein. Voilà, mais c'est un choix, ni pour l'un ni pour l'autre. Un regard qui perce. Ma question serait, est-ce que vous vous répondez parfois l'un l'autre à travers de vos textes ? Est-ce que vivre ensemble, partager le quotidien, vous amène aussi à partager des thèmes d'écriture, ou bien des contraintes, ou bien des défis, ou bien des élans et des façons ? À moins que ce ne soit justement cette proximité, cette façon d'être sur la même longueur d'onde en poésie qui vous a d'abord rapproché et qui vous a fait former couple.
Alors, on n'aime pas du tout les mêmes choses en poésie, ni même en musique, ni dans plein de domaines. Mais c'est peut-être l'amour de la langue, des sonorités, de la lettre aussi, parce que ça, c'est quelque chose qu'on partage très fortement avec Jasmin, qui, je pense, nous rapproche, mais tout ça est très inconscient.
Et oui, je pense que le fait d'avoir des goûts complètement différents, particulièrement musicaux, je déteste le rock. Je peux même dire que dans l'écriture de Marie, et je pense qu'inversement, ça doit être vrai, il y a quelque chose qui m'agace parfois profondément, mais que j'aime aussi.
Mais peut-être que le lien, la chose commune, c'est peut-être la danse, en fait. Et c'est ce que je me disais, parce qu'il y a là quelque chose qu'on a partagé. Oui, cette forme de danse, de musique, peut-être c'est ça, quelque chose qui cherche à dire du mouvement, à dire un trajet, à dire un voyage, peut-être.
Une cadence.
Oui, sur la danse, bon, moi je danse pas. Hein. Cette question du mouvement, du véhicule, du corps, du voyage, dedans, ouais, c'est quelque chose d'important. Même si je pense que tu as une écriture beaucoup plus incarnée et que moi, j'ai quelque chose de plus flottant.
Nous allons passer maintenant à vos deux livres, édités aux éditions Exopotamie. Cette fois, le ton du livre de Marie est très différent de celui du livre de Jasmin. Et on va donc commencer par Fugue, au pluriel, donc livre de Marie Lopinto. La couverture au ton assez rouge, disons, rose, rouge et noir, montre un masque de fantôme qu'un personnage de dos est en train d'ôter. Et voici la présentation de ce livre de Marie Lopinto que vous pouvez trouver sur le site des éditions Exopotamie. S'il existe plusieurs chemins pour se rendre en poésie, il y a aussi différents moyens d'aborder l'art de la fugue. Dans ce texte qui pourrait être une ode à la joie, un carnet de voyage intérieur ou une composition de Jean-Sébastien Bach, les fugues sont construites comme le genre musical du même nom, sur le principe du contrepoint. Des thèmes se poursuivent, se répètent, se répondent, sans jamais parvenir à se rattraper, pour former un récit mélodieux qui intègre toutefois la dissonance, nous aspire et nous entraîne comme dans un tube, celui d'une vague, et pas celui d'une chanson. Celle dont se révèlent peu à peu les contours est avant tout une voix, l'écho d'une pensée qui décortique un quotidien auquel la narratrice tente d'échapper tout en jouant à s'en emparer. Le fruit de ses observations donne lieu à un recueil de chroniques insolites, des paroles qu'elle murmure parfois à notre oreille avec douceur, malice, subtilité, ou qui nous parviennent comme hurlées depuis la pièce d'à côté avec une fougue et une insolence pleinement assumées. Dans ce journal d'une femme de notre temps qui travaille, vit dans une maison, aime un homme dont on devine la présence, élève des enfants, fait pousser des légumes tout en se cultivant elle-même, on y croise les réminiscences d'une enfance qui pourrait être la nôtre, des personnages de films ou de romans, des animaux domestiques et d'autres sauvages, des paroles de chansons, des recettes de cuisines exotiques, des formules en latin, des notions de psychanalyse qui tournent autour du père, du lapsus et de la langue, des rêves de la cathédrale, de plages enneigées et de jus de citron. Et donc, je vais vous laisser lire quelques extraits de ce livre, Marie, des morceaux que vous choisissez, ce que vous voulez.
J'aime bien quand on répète très vite, un mot ou deux à la suite, et qu'après, on ne sait plus ce qu'on dit. J'ai toujours eu peur de faire de la danse africaine parce que je sens que mon corps se soulève. Un caillou, ça fait plouf. Il y a longtemps, j'ai reçu une lettre écrite au stylo rouge. C'était beau comme un dessin. Du coup, je ne l'ai pas lu, mais j'ai répondu que j'étais bien contente d'avoir de si bonnes nouvelles. Je n'ai pas de souvenirs impérissables. Longtemps, j'ai cru que faire une sieste crapuleuse, ça voulait dire dormir comme un loir. Petite, je collais mes crottes de nez sur le mur de ma chambre, tapissée de fleurs, pile dans le pistil. Je ne porte jamais de peignoir parce que c'est dur à prononcer et que ma langue dit pied noir. C'est lourd, un pied noir sur le dos. J'ai les os du cul pointus, mais personne ne le sait, sauf ma mère. C'est elle qui le dit. Quelquefois, je tape sur le canapé pour faire voler la poussière et dire « c'est sale ». C'est toujours moi qui fais la vaisselle. À l'école primaire, je me suis cassé les dents de devant en jouant à trap-trap. De retour chez moi, ma mère m'a dit que j'aurais mieux fait de me casser le nez. Un lapsus n'est pas toujours révélateur, même en cherchant bien. Hier, j'ai lu qu'on pouvait tomber dans l'altitude. Quand je lis Le ravissement de Lolvestein, va savoir pourquoi je me sens femme.
Merci Marie. Je vais en ajouter un ou deux que j'aime bien et que j'ai sélectionnés. Alors vous dites « J'aime bien les gens qui ont réussi à se trouver un nom. J'ai cherché plusieurs fois, mais le mien doit être bien caché. Il y a 3 semaines, j'ai trait une chèvre pour la première fois de ma vie, puis j'ai bu le lait tiède. Je me suis dit que je n'avais jamais goûté le mien. À 5 ans, j'ai pris conscience de mon âge sans pour autant me souvenir des 5 années qui avaient précédé. » Voilà, donc on sent bien derrière ces réflexions, ces remarques, ces souvenirs ou non-souvenirs, comme la quête de vous-même qui passe par une connaissance lucide, amusée, détachée, avec un travail d'auto-réflexivité, sans doute intense. Et puis, il y a la question de l'identité, la question du nom qui vous convienne, la question des origines. Lou Pinto, d'après moi, ça aurait des origines italiennes ou siciliennes, et pourtant ça sonne un peu portugais, et en même temps on retrouve votre père, enfant, en Afrique du Nord. Donc ça fait un joyeux mélange tout ça, je ne sais pas exactement le fond de l'histoire, mais il est évident que pied noir, ça n'est pas facile à porter en France et encore aujourd'hui. La question moi, qui m'intéresse aussi, c'est comment est né ce livre ? Est-ce que c'est à partir d'un journal que vous tenez ? Ou bien une forme d'élan de témoigner, tout en faisant le point sur votre vie ? Ou alors c'est simplement un exercice ludique pour souligner l'absurde, le dérisoire, l'humour ?
Alors au départ, c'était 2 pages. Et c'était vraiment cette idée à ce moment-là de chercher à se dire au travers de choses très simples, mais aussi pour finalement arriver au résultat qu'on répond pas à la question existentielle qui suis-je et que finalement c'est pas très très grave tout ça, quoi, et que on peut lâcher aussi l'affaire avec ça. Et c'est donc l'éditrice Mélanie Cessièque-Duprat qui a lu ces 2 pages et qui disait « Non mais ça, il faut faire quelque chose avec ça ». Et c'est donc parti comme ça, ça a été écrit par ce biais-là, de cette façon-là.
Alors merci Mélanie Cessièque-Duprat. passons maintenant à Matin Lumière, dont vous êtes l'auteur, Jasmin Liman. Il s'agit d'un long poème, il est constitué de souvenirs, de fragments. On le vit comme un voyage au travers de différentes mémoires, mémoires personnelles qui font la petite histoire, mais aussi mémoires collectives qui sont la base de la grande histoire, avec guerre, avec exil, aussi la mémoire électronique. Et ces mémoires s'expriment en disant « je ». Les époques se mêlent, se recouvrent et d'un seul coup, les éléphants d'Hannibal surgissent au pied d'une remontée mécanique. Voilà, donc je vais ne pas me priver le plaisir de dire ça. Je suis à cheval dans les Alpes, entre l'Autriche et l'Italie. Les éléphants ne viendront plus. Les éléphants sont interdits. Ils provoquent des avalanches. Ils sont dangereux. Ils abîment la neige. Ils salissent la neige. Les éléphants, c'est évident, ne barrissent pas en bas des télésièges. Alors dans ce livre, en tout cas moi c'est mon expérience, l'humour est partout. On avance comme dans une bande dessinée, comme de bulle en bulle. Et le jeu réussit même à se faire paysage, objet, phénomène météorologique, signal immatériel. Il devient ce jeu le nom d'un mouvement qui court tout au long de l'écriture et qui serait le carburant nécessaire, soit pour remonter le temps, soit pour le devancer. Et dans tous les cas, la sensation à la lecture est que nous finissons, encore une fois, hors d'haleine, et que contrairement au passage qui dit « on vous oubliera », on oubliera l'histoire des anciens, on ne se souviendra ni de l'homme, ni de l'oiseau, ni des chevaux dans les étoiles, on oubliera le nom du ciel, c'est un beau jour pour oublier. Eh bien, quand on ferme le livre, on n'est pas prêt d'oublier ce voyage et on s'enjoint de prendre une bonne décision qui serait de réveiller toutes les mémoires, de jouer au lanceur d'alarme, au lanceur d'alerte à grands coups de mémoire et de prévision. Car l'avenir des générations futures, à mon avis, est en jeu. Est-ce que vous aviez une intention derrière la tête en écrivant ce livre, Jasmin ?
Oui, oui. Mais il y avait un jeu, enfin un jeu, un système de jeu. Il y avait une volonté quand même d'alerter sur certaines choses et de jouer avec ça et de ne pas oublier. Ouais. Prendre les grands mots du fascisme, du nazisme, du colonialisme, de tous ces ismes qui sont dedans, et maintenant de la technologie. Et j'ai joué à énormément traduire ce texte avec Google Translate et de voir les jeux sur une phrase, en connaissant un peu quand même d'arabe, d'hébreu et d'anglais, hein, et chinois, principalement ces langues-là, et de voir les chaos. Évidemment, les éléphants, c'est moi. Mais de revoir après comment on glisse, on descend dans la neige, comment on tombe, voilà, qu'est-ce que ça pouvait faire dans une autre langue, qu'est-ce que ça pouvait dire quand on peut énormément trafiquer les choses maintenant, quand maintenant on va s'amuser même à écrire avec ChatGPT. À l'époque, c'était pas développé autant. Là, moi, il y avait cette volonté d'aller chercher là-dedans et de me ramuser avec la machine que je déteste, en fait. S'il y a quelque chose de testament dedans, c'est si on pouvait couper Internet, si j'avais la possibilité de couper Internet là, ici, maintenant, directement, oui, je couperais Internet et je pense qu'il y aurait beaucoup moins de conflits dans le monde. Je pense que des fois, la technologie, c'est dangereux.
Vous allez nous en lire un extrait de ce matin de lumière.
Il n'y a pas de réforme, pas de progrès possible. Il n'y a pas de classe moyenne. Nous sommes tous à la recherche de maîtres. Nous sommes tous des esclaves de la machine et des algorithmes. Nous sommes des chiens soumis aux chasseurs de têtes, des chiens qui gardent des territoires qui ne leur appartiennent pas. Où nous prenons, où nous perdons. Selon la façon dont nous pensons, nous travaillons à être un homme debout, un maître spécial, les maîtres de nous-mêmes. L'instant futur est une impossibilité syntaxique, une incorrection grammaticale, un temps sublime, un temps inaccompli. Il n'est rien, le présent, que l'amour et le repos en mouvement. Il est l'humeur du jour, il est ce qui vient est juste, le mouvement du futur est merveilleux. Deviens un homme maintenant, mon garçon. Combat dans l'amour et dans la destruction des machines. Détruit l'ego et les images. Ce qu'ils veulent, la fin de l'homme, la fin du partage. Qui veulent leur moi comme règle de conduite. Leur confort et la liberté. Le non-partage et la surveillance générale. La transparence, le nouvel ordre mondial. Combat-les. Combat-les sans cesse. Détruis ton moi. Détruis le code et l'algorithme. Déconnecte-toi. Et sors. N'accepte plus la compétition. Le contrôle généralisé. N'accepte plus le principe d'une langue principale faite de codes et de chiffres, sans mouvement, ni émotion, ni secret. Reste dans l'inachevé, dans le parachèvement du moi, dans la danse des lettres, dans l'eau, dans la fluidité de l'or, dans le feu, dans le ciel, dans la lumière du ciel. Maintenant, sois un jour. Nomme le jour. Dédie ton nom. Nomme-toi dans l'oubli de ton moi.
Voilà, c'est bien envoyé. Est-ce que la création d'un monde en soi que permet l'écriture vous sauve, Jasmin Liman ? Est-ce que ça vous fait supporter le monde tel que nous le voyons aujourd'hui ?
Je supporte relativement bien le monde. Il ne m'est pas non plus indigeste et il y a plein de choses qui ont bien évolué quand même dans le monde. Je ne suis pas non plus complètement contre le progrès et d'autres choses. Mais oui, enfin, en tout cas dans l'écriture, il y a quelque chose qui peut réparer
et puis peut-être même dans la lecture. Enfin, moi, je sais qu'il y a certaines lectures que, auxquelles je m'astreins ou que je me contrains, mais qui me font du bien et qui peuvent réparer, consoler, guérir. Après, je ne crois pas que la beauté sauvera le monde. Oui, il y a quelque chose qui peut être léger, qui peut être drôle, qui peut être beau et qui peut être de l'ordre d'une lutte et d'une lutte contre soi. Ça, je pense que vraiment, lutter contre soi, ouais, c'est déjà la première chose à faire.
Marie, vous avez un deuxième livre publié, cette fois édité par les éditions Fidèle en Thelme X, qui sont des éditions marseillaises. Et c'est Frédérique Guetta-Liviani qui en est l'animatrice, la directrice, je ne sais pas ce qu'il faudrait dire. Mais ce livre porte pour titre « Le jour agit ». Un petit récit, un petit livre carré, presque tout blanc. Peut-être comme le serait un linceul, c'est la réflexion que je me suis faite. Mais quand on ouvre, on découvre les calligraphies. Et les calligraphies de qui ? Je vous le donne en mille. De Jasmin Liman. Et c'est un deuxième livre apparemment très différent du premier. Mais à bien y regarder, on retrouve le même regard posé sur les choses, le même rapport au monde en fait. Et la présentation par les éditions Fidèle en Thelme me dit ceci. De la ligne à la lignée, ou quand celle-ci se rompt et se désintègre face à la mort d'un père, désirant pour lui seul, égoïste et indifférent à ce qui reste pour les vivants, et pour qui seul compte la volonté farouche d'être rendu à la mère, sans souci de mémoire, que reste-t-il alors comme refuge possible, si ce n'est un espace renversant et éclaté, dans lequel la perspective de la lignée familiale et la croche du nom peuvent enfin s'ouvrir et se perdre, enfin se désincarner, se dématérialiser dans l'intranquillité de la filiation, l'inquiétude d'une pensée qui pourrait devenir une force, dernier acte du père mort, don inédit et subversif d'un père qui laisse ouverte la question « Dernière action agit ?» On comprend que J, c'est l'initiale du prénom du père, qu'il est condamné par la maladie, qu'il souhaite se faire incinérer et qu'alors pour les proches, il s'agit d'une double disparition. Il faut s'habituer à l'idée que les cendres soient lancées à la mer, que rien ne reste, pas même une tombe où se recueillir. Marie, j'aimerais que vous lisiez quelques extraits de ce livre.
Alors, je vais lire plutôt des extraits qui sont situés à la fin du livre. J m'avait envoyé par courrier dans une grande enveloppe marron le document de sa naturalisation édité par les autorités françaises. Il est écrit nom, prénom, date de naissance, nationalité. J était surpris par les mots écrits sur la page. J ne savait pas le point d'origine. Se dire est déjà ne plus être que ça. Chercher l'origine comme point visible, inscrire le début et la fin dans le livret pour y échapper, chercher dans la profondeur du visible la cachette du temps et de l'espace, l'horizon invisible, pour en excès chercher à ne pas y être que ça. Le mot « shéol » en hébreu veut dire le lieu des morts, mais aussi la question. Lorsqu'on meurt, on retourne dans la question, et les vivants cherchent des réponses. Les vivants bégayent des pourquoi sans réponse. Lourds d'oreilles, les morts sont devenus sourds. Sans oui, les morts ne peuvent plus répondre. On dénombre, point par point de la ligne, on approxime le continu par le discret. Pas de chant du cygne, pas de dernier mot, pas de dernier mot pour tomber dedans. À Birkenau, mon fils cherche inscrit sur le grand mur blanc le nom de ses arrière-grands-parents, un nom comme trace en vain. Le point est un repli de départ, un retrait, un germe, qui seul engendre l'espace de la ligne et de la surface, en train de se réaliser, possible place d'un espace troué, ouvert comme un végétal clos, en exil. Ici, je trace un mirage de points sur toute la surface de la page. J est explicite. Il demande à ce que ses cendres soient jetées à la mer. Jetez mes cendres, chers enfants, afin que rien ne reste. J ne pense qu'à lui, ne veut rien, ni lieu, ni sépulture. Dans l'eau, mes cendres, dit J, ne dit pas où, ni comment. Irrémédiable combustion, étrangère au calcul, dispersée dans la mer, du moins que moins mémoriel, compte pour zéro. gît à la mémoire courte, ne sait plus le naufrage des lieux vides, des tombeaux creux pour ceux qui restent, ne sait plus que cendre jetée n'est pas lieu, n'est pas sépulture. J'y demande à ce que de cendre jetée rien ne reste. J'y a demandé à ce que ces cendres, à ce que ces cendres, à ce que de cendres jetées rien ne reste. Cendres jetées n'est pas à lire. J'y est parti depuis quelques mois déjà. Avec Julien et Magali, nous les enfants allons sur la plage d'une ville dont je ne me souviens pas le nom. C'est un beau jour, un jour beau, avec du vent et du soleil. Julien a fait le trajet de Paris avec l'urne dans son sac à dos. Magali a trouvé le restaurant. Nous marchons sur la plage, nous retirons nos chaussures, nous trempons nos pieds dans l'eau. À côté, des enfants s'amusent. Au loin, les parents marchent en se donnant la main. Nous leur tournons le dos. Un homme au téléphone sur la jetée fait les 100 pas. Il dit « Reviens, je t'attends. Je reste là. Reviens, s'il te plaît. » Et d'un coup sec, J'y est ravi par la mer, résidu minéral à nos pieds, et nous trois, nous les enfants, les pieds dans l'eau, de cette plage indifférente, surpris par cette action qui ne veut rien dire. Cendre jetée en mer, il n'y a trace. Cendre agit, se jette et reste à nos pieds.
Donc vous avez lu ce passage, page 45, de « À Birkenau, mon fils cherche, inscrit sur le grand mur blanc le nom de ses arrière-grands-parents, un nom comme trace en vain ». Là aussi, la disparition sous forme de cendres, évidemment, nous frappe. Et l'on comprend alors pourquoi la question des traces, de la mémoire, est si cruciale pour cette narratrice. Et j'aimerais aussi faire entendre aux auditeurs ce passage. « Ma fille dit qu'à Champclauson, elle va au cimetière et qu'elle joue entre les tombes pendant que sa grand-mère arrange les fleurs dans les pots et retire les mauvaises herbes. » Je lui demande si elle a trouvé la tombe du soldat inconnu. Elle répond « Qui c'est celui-là ?» Et on rit en pensant à lui. Même pas besoin du nom. Dans ce livre, on passe de Cannes à l'Algérie, à la Tunisie. On passe de personnage en personnage. On passe d'un mot en hébreu à un mot en japonais. On passe des rapports médicaux à la pratique du kyudo, cet art du tir à l'arc, où le but est d'oublier la cible afin de réaliser quelque chose en soi-même. Il y a comme matérialiser l'errance d'une vie ou tout un tas de vies, avec son peu à rassembler pour, comme vous le dites, libérer la chambre après le décès. Comment vivez-vous, comment cohabitez-vous avec cette foison de questions et de problématiques, Marie-Lo Pinto ?
Ça se regroupe sur une même problématique, la problématique des identifications, pas de l'identité, mais de l'identification. Et donc, comment on se construit dans ce fantasme de l'identité et de cet imaginaire de qu'est l'identification. À la mort du père, l'histoire troublée, tourmentée, compliquée du père et de la lignée paternelle est reconvoquée. Et qu'est-ce que nous, les descendants, qu'est-ce qu'on fait de ça, de cette mémoire-là ? En plus, rien n'a été trop évoqué, trop raconté. Donc, il reste des lieux, il reste une errance. Et il reste aussi le vécu d'une fille avec un père qui n'est pas un père classique, enfin dans le sens où il joue pas son rôle de père, mais ce livre c'était aussi ça, c'était de dire que sa fonction paternelle finalement il l'a tenue, même s'il était absent, même s'il a rien raconté, sa fonction paternelle il a réussi cette chose-là. Oui, la question de la ligne, de la lignée, du nom, de comment on s'accroche à son nom, à ce nom qui fait histoire, donc, et qui raconte les voyages de ce nom, puisque au départ c'est Pinto, c'est un nom portugais qui devient ensuite, au gré des diasporas et des voyages, Lo Pinto, puisqu'il passe par l'Italie, Pantelleria, qui est une île italienne entre la Sicile et la Tunisie, et puis ensuite, oui, ça, en Algérie. Comment on se noue à ça? À ce nom de famille-là, et comment aussi on s'en défait. Du père, du nom. Donc, je suis très accrochée à mon nom, il me tient. Mon oncle l'écrit avec un tiré entre le Lo et le Pinto. Moi non, il y a un espace vide, qui est un espace aussi de respiration, de liberté. aussi l'idée de peut-être on peut se trouver un autre nom. Je le dis d'ailleurs dans Fugue, dans le premier livre, comment ça, ça se noue et ça peut se dénouer sans que ce soit un drame, comment la mort du père peut aussi ne pas être un drame. Et je remercie Frédéric Guettaliviani d'avoir accueilli, abrité ce texte dans la collection La Motesta des éditions Fidèlement Telmix, parce que c'est vraiment un coffret, un coffret carré qui accueille des textes courts, des courts textes, et c'est vraiment un abri pour mon texte en tout.
Jasmin, vous avez participé à ce livre de Marie, Le jour agit, en couvrant l'intérieur de la couverture par des calligraphies.
Alors c'est pas Marie qui me l'a demandé au départ, hein. C'est Frédéric qui m'a demandé de faire ça. Bah, connaissant le père de Marie, j'ai accepté, puis ça m'a vraiment fait plaisir de faire un travail autour de cette écriture. Le premier livre que j'ai lu dans cette collection, c'était un livre d'Yvan Mignot qui s'appelle « Maintenant des arbres », qui est un de mes livres préférés et qui est publié donc chez Fidèle Antamix. Et il y avait en couverture, à l'époque je ne savais pas lire le chinois, il y avait des signes chinois, en particulier des signes anciens du chinois, parce que les caractères évoluent. Et donc là, bah, il y a quelques caractères chinois, ils ne sont pas les mêmes. Hein. Il y a de l'hébreu et il y a forcément aussi de l'arabe. Concernant l'arabe, c'est des prières et le reste, ça reste aussi des prières et c'était important.
Il semble que vous pratiquiez souvent la calligraphie, puisque vous organisez une calligraphie avec des enfants. Est-ce que vous avez l'impression que cela complète votre expérience de l'écriture?
Oui, parce que j'écris beaucoup avec cet horrible objet qui est la machine. Et la calligraphie, ben, j'ai besoin d'une trace, de quelque chose. Puis c'est comme une gymnastique, je sais pas. Enfin, c'est quelque chose qui m'est venu il y a bien des années. Quand j'ai appris un peu mieux à écrire l'arabe et puis après l'hébreu, j'ai eu le besoin du chinois aussi à un moment donné, je sais pas. Et après oui, c'est génial de transmettre ça aux gosses, il y a quelque chose de très ludique sur un jeu de transformation d'une lettre, sur le tracé d'une lettre, sur ce que peut être une lettre. Peut-être parce que j'écris très mal en français et qu'à l'école c'était aussi une corvée pour moi et que là il y a quelque chose, d'essayer de faire quelque chose que je trouve beau, ou en tout cas quelque chose qui soit de l'ordre d'un geste juste et bah, ça m'évite de fumer, ça m'évite de boire, ça m'évite pas mal de choses. Voilà, il y a quelque chose qui est chouette encore plus avec les enfants parce qu'il y a quelque chose de très spontané là-dedans de leur part quand ils le font et en tout cas, c'est quelque chose auquel je passe beaucoup de temps et qui est fondamental pour moi.
Je rappelle à nos auditeurs que vous écoutez Les Mots d'Azur ou La Poésie en direct, une émission consacrée à la poésie contemporaine et que mes invités aujourd'hui sont Jasmin Limence et Marie Lopinto. La tradition de cette émission veut que mes invités proposent à l'écoute un morceau de musique ou une chanson. Alors ça peut être quelque chose d'important pour eux, qui les touche ou qui les accompagne, quand ils écrivent par exemple. Quel serait votre choix et pourquoi?
Moi j'écoute beaucoup de musique tout le temps, en voiture, à la maison, quand Jasmin n'est pas là parce qu'il ne supporte pas trop la musique. Mais moi c'est vraiment l'endroit des fantasmes et de l'imaginaire et donc j'en écoute aussi beaucoup quand j'écris, mais là je sais pas. Il n'y a rien qui me vient.
Même si, oui, je suis allergique au rock, la musique, j'en écoute aussi. Hein. Pendant longtemps, maintenant, j'écris plus du tout avec de la musique, mais pendant longtemps, je pouvais écrire avec Philippe Glass parce que ça me mettait dans une bulle. Et moi, j'étais en train de penser à Philippe Glass, là, quand on me posait la question. Et c'était particulièrement... c'était Einstein on the Beach, je pense, qui me venait à l'esprit.
Nous allons donc écouter Philippe Glass, Einstein on the Beach. Sachant qu'il s'agit d'un opéra en quatre actes, nous n'en écouterons qu'un extrait seulement.
Clean, five, it could,
four,
be, those,
one,
waves. Will it get some
79
with
87 86
12 the sailboat and it could get
12
8 All these are the days, my friends, and these are the days, my friends. Put these days of 8, 8, 8 cents into 100 coins.
32, 68, 59
change.
736, 737
All these are the IIDs,
62, 51
my friends. And these are
111
my days.
46, 64
my friends.
112
Make a Toyota in
3
This is
1
Vous venez d'entendre Einstein on the Beach de Philip Glass. Et c'était le morceau qu'a choisi mon invité, Jasmin Limans. En ces temps de commémoration, de mouvement surréaliste, revient à la surface l'idée qu'il défendait, à savoir que la révolte et la lutte inspirent la démarche artistique. Selon vous, qu'en est-il aujourd'hui dans ce que vous observez d'une part et dans votre pratique d'autre part?
Alors, moi j'ai la chance, après avoir été formateur, d'être actuellement prof en lettres histoire. Et ça fait partie des mouvements que je dois faire étudier, à, je pense en particulier à une classe de première, où c'est que des jeunes filles esthétiques et qu'on a travaillé là-dessus récemment. Et que c'était assez chouette de voir que finalement, même si elles sont beaucoup avec leur portable et tout ça, mais quand il s'agit d'écrire un texte et, ou de lire un texte, elles peuvent... encore créer, m'inventer, enfin inventer pour elle, parce que m'inventer pour moi, on s'en fout un petit peu, certaines choses. Et on avait pris le principe, un vieux principe surréaliste, proche du cadavre et des skis, de choisir 24 mots rapidement et après de pouvoir écrire un texte. Puisqu'il faut que je corrige des copies, là ça fait le prof, corriger des copies, mais parce que ça me fait bizarre de devoir noter ça, mais ça fait partie des attendus. Et ben j'étais vraiment étonné de voilà que la mort puisse être un chocolat chaud. Je me rappelle de phrases comme ça qui pour moi m'ont fait rire, m'ont touché, où il y avait du corps, de la vie, de la peur et aussi ouais, une possibilité du futur. Desnos, ça a été quelqu'un qui a vraiment énormément compté pour moi. J'ai du mal à lire breton et je découvre que des choses peut-être même maintenant, mais ouais, Desnos en particulier a été quelqu'un de vraiment important et souvent je quand j'ai un doute, quand ça va pas bien, il y a deux trois poèmes de Desnos, soit des choses pour enfants, soit en particulier Art poétique de Desnos qui me revient. Il y a eu cette façon de pouvoir dire non, essayer de refuser la guerre, même si la guerre parfois elle est bien là.
Oui, moi, ce que je peux dire, c'est que l'art, c'est politique, quoi. Enfin, que donc, l'agencement des mots est politique, l'agencement des corps dans l'espace est politique. Enfin, alors, dans ces moments troublés, troublants, bah oui, il y a quelque chose là à défendre d'une écriture, non pas d'une écriture politique absolument, mais ça l'est de fait, quoi, ça l'est en soi.
Ben voilà, le temps imparti est écoulé. Me reste à vous remercier chaleureusement de m'avoir reçu ici au Bacro, près d'Aubenas. Et chers auditeurs, moi je vous retrouve le mois prochain avec un nouvel invité pour une nouvelle plongée, une nouvelle exploration dans ce grand bain qu'est la poésie contemporaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.